Bonjour, vous êtes sur Radio B, la radio des bonnes ondes, 90.fm, dans l'émission L'art, c'est pas du luxe, avec Christian Lux. Et aujourd'hui, je reçois deux invités que j'invite à se présenter. D'abord, madame.
Bonjour, je m'appelle Martine Lenormand. Je suis psychanalyste, peintre et poète. Membre de l'association francophone de Haïku, comme Jean Antonini, ici présent, qui est coprésident de l'AFH. Je suis membre de Graines de Vent, revue qui paraît trois fois par an et pour laquelle je prépare actuellement les feuillets, soit une vingtaine de pages avec mes photos, peintures et textes sur le thème du métal. En effet, chaque revue propose un thème commun à tous les auteurs. Je suis membre de l'écho de Les Trois Chemins, association francophone des auteurs de Haïboun, qui est une revue en ligne. Membre de PLOC, qui est une revue en ligne, association pour la promotion du haïku. Vous commencez à comprendre qu'on va parler de haïku.
Et de Haïboun.
Je publie régulièrement dans la revue du tanka francophone, essentiellement des tankas et des tankas prose. Vient de sortir d'ailleurs un numéro spécial regroupant des textes écrits à partir d'Incipit de Proust et dans lesquels j'ai rédigé plusieurs textes, soit seul, soit avec son directeur Patrick Simon. Je lirai d'ailleurs, je pense, un haïboun, une petite haïboun que j'ai écrit tout à l'heure. J'écris tous les jours à peu près, hein, dans le cadre de groupes de haïku sur Facebook. Alors je vais en citer quelques-uns, le coucou du haïku, vent de haïku, saïjiki républicain, un haïku par jour, haïku concept, bon, il y en a encore d'autres. En fait, je les choisis selon que le thème donné m'inspire ou pas. J'apprécie ce partage, ces échanges qui ouvrent des horizons et surtout permet d'avoir une pratique d'écriture régulière. Haïku, haïboun, tanka, tanka prose, renga, autant de formes littéraires différentes, toutes d'origine japonaise. J'évoquerai le haïboun aujourd'hui. J'ai publié un recueil de poésie il y a 3 ans qui s'appelait Eclipse de Nemrous. J'attends actuellement le feu vert d'un éditeur pour publier un recueil de renga libre écrit à 2 plumes. Avec une autre psychanalyste. Et je passe la parole à Jean.
Oui, bonjour. Jean Antonini, moi je suis coprésident de cette association francophone de haïku. Et on est venu là, sur l'invitation de Christian, pour vous parler de ce tout petit poème. C'est le poème le plus court du monde. Il est originaire du Japon. Et il est arrivé en France... Il y a 120 ans à peu près, hein, au début du 19e siècle. Et ce que je voudrais d'abord vous expliquer, c'est pourquoi on s'intéresse tellement à ce poème japonais.
Nous allons vous écouter, hein, puisque les auditrices et auditeurs vont peut-être découvrir ou se familiariser avec cette activité poétique très, comment dirais-je,
minimaliste.
Singulière. Très singulière, minimaliste, étrange et qui peut surprendre un Européen.
Oui, et puis les gens croient beaucoup que parce que le haïku vient du Japon, on s'intéresse particulièrement à des choses japonaises. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Quand des fois on est invité au lycée pour parler de haïku, on vous met un kimono, des fleurs de cerisier, tout ça. Non, pas du tout. Nous, on s'intéresse en France au haïku, et je pense aux États-Unis et un petit peu partout. Peut-être sans doute à cause de la concision d'abord. Hein. C'est un poème de 3 lignes qui comporte 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. Et cette concision elle a permis au haïku de se balader beaucoup. On peut facilement le mémoriser. On n'a pas besoin de papier, de stylo. On se balade dans la rue et puis un haïku vient. Hein. Je ne sais pas, je vais vous en lire quelques-uns comme ça que j'ai gardés en mémoire, parce qu'on peut les garder très facilement en mémoire, et c'est ça qui est intéressant dans le haïku. Je pense à celui-là, par exemple, de Busson, c'est un poète du XVIIIe siècle. J'ai acheté des oignons, par le bosquet dénudé, je rentre à la maison. Alors ça, c'est un truc qui a été écrit au XVIIIe siècle, et vous imaginez qu'aujourd'hui, il est là, Bourg-en-Bresse, et on est au XXe siècle, ça fait quand même plus de 200 ans, au XXIe siècle. Un autre, petit pommier du Japon, murmurant doucement, pas la peine d'aller à Kyoto. Alors ça, c'est un poème de Kenneth White, qu'il a publié dans un livre en 1980. Kenneth White, c'est un poète d'origine écossaise et qui vit en France. Je vous en lis quelques-uns que j'ai en tête. Hein.
Oui.
Je lève la tête, l'arbre que j'abats, comme il est calme. Alors ça, c'est un poète d'un, c'est un poème d'un japonais qui s'appelle Isekiro. Et il vivait à la fin du 19e siècle au Japon. Et je trouve ce poème absolument fantastique parce qu'il a un côté philosophique très fort. Et puis encore un autre, bah, abeille, abeille. Quand on les appelle, elles ne viennent pas. Alors celui-là, c'est moi qui l'ai écrit en 1985. C'était l'été dans un endroit où je faisais des ateliers d'écriture. Et il y avait quelqu'un qui était en train de travailler sur la ruche et il y avait des abeilles un peu partout. En particulier dans les cheveux. T'en as peut-être aussi, toi, Martine, dont tu te souviens des haïkus ?
Pas vraiment, moi, je ne me souviens pas des haïkus. Je n'en ai qu'un, je ne sais même plus de qui il est.
Ah bah vas-y.
Le voleur m'a tout pris, sauf la lune à ma fenêtre. C'est un haïjin très connu japonais.
Alors, il s'appelle Ryokan.
Bravo,
le nom me revient maintenant, c'est il s'appelle Ryokan, il date du 19e.
Bravo. Voilà. Je n'en dirai pas plus.
Et c'est lui dont parle Bobin, dans un de ses derniers livres.
Ah, peut-être que Bobin en parle, il aime bien les haïkus aussi.
Il me semble.
Christian Bobin, oui, oui, oui.
Et je cherchais aussi un monsieur, un littéraire, que j'ai rencontré il y a fort longtemps, et qui a écrit sur l'haïku. Alors, vous me dites si ce n'est pas Maxence Fermine.
Si, oui. Il a écrit Neige.
Neige, là.
Voilà. Mais... Hein. Donc on peut le recommander aux auditrices.
Ah, c'est
et
un très beau livre, Neige. Oui. Oui. Il a quoi ? Il a une vingtaine d'années.
Moi, je l'ai jamais lu, mais il paraît que c'est fantastique.
Oui. Oui. Oui.
Et c'est comme ça, je pense, que j'ai été sensibilisé.
Et ça va intéresser Martine parce qu'elle va nous parler du haïbun.
Oui.
Et le haïbun, c'est un mélange de prose et de haïku. Oui. Hein.
Je vais en parler tout à l'heure.
D'accord. Ouais. Par contre, Jean, je vous interromps. Excusez-moi. Mais je lève la tête, l'arbre que j'abats. Comme il est calme. Là, actuellement, à travers la réflexion philosophique, écologique, ce haïku pourrait surprendre, puisque certaines personnes pourraient dire pas du tout, l'arbre n'est pas calme lorsqu'il est abattu.
Oui, bah, mais en fait, je ne sais pas si tu as déjà vu tomber des arbres qu'on vient de couper. Ça donne cette impression.
Mmh.
On pense que l'arbre est en train de mourir. Mais en fait, il ne bouge pas.
Hein. Il tombe très doucement, un arbre.
Ouais. Ouais.
Mmh. Oui, donc là, c'est le mouvement, la lenteur du mouvement.
Mmh. Mmh.
Alors que moi, je le dis avec humour et pas dans un souci polémique. Mais ce que je veux ajouter, c'est que ces haïkus, en trois phrases, peuvent susciter des discussions, des réflexions.
C'est porteur d'une pensée,
tout
un haïku.
Voilà.
Mmh.
Mmh. Mmh. Hein. Tout à fait. Donc, au lieu de lire cinq chapitres d'un philosophe inconnu ou connu, là, un élève ou un jeune homme, comme Julien ici présent, pourrait déjà mettre au travail son esprit et sa sensibilité.
Tout à fait.
D'accord.
Mais comme Ryokan qui se réjouit qu'on lui ait tout pris et qu'on lui ait laissé la lune.
Oui, oui.
Oui, c'est déjà ça de gagner. Hein.
Oui,
bon, je continue peut-être sur la concision du haïku.
Bien sûr.
Comme le haïku est très court, ça permet, et que c'est une forme fixe, c'est-à-dire qu'on travaille tous sur la même forme, donc on peut aussi travailler à plusieurs. Alors, je vais vous donner deux exemples, parce que j'ai écrit deux livres que j'ai publiés avec des personnes qui étaient assez éloignées. Le premier, c'était avec une Canadienne qui s'appelle Hélène Boissé. Donc, on échangeait par courriel. Hein. Et puis, une autre avec une agricultrice qui s'appelle Véronique Dutrex. Et avec ces deux personnes, j'ai fait un travail d'échange de haïku qui a été publié. Et je vais vous en lire quelques exemples avec Martine. Moi, je vais lire ceux que j'ai écrits et Martine lira ceux de Hélène Boissé ou de Véronique Dutrex.
Voilà.
D'accord.
Alors, le premier s'appelle « Au creux de nos gorges ». Devant ses yeux verts, flot d'ondes lumineuses, je reste muet.
Éclair balayant, 30 ans de vie commune, son regard. Le silence de l'autre, pas même une corneille n'a pu l'atteindre.
Pointe des branches. Pour ne pas se sentir seul, il suffit d'un arbre. Trois brins d'herbe alignés sur le bureau, paraît le soleil.
Du haut de sa chair, converti en épouvantail, le curé prêche, prêche. Que du vent, ne sortait de sa bouche que du vent.
Voilà, et puis un autre extrait du livre avec Véronique Dutrex qui s'appelle « D'un champ à l'autre ». C'est un champ où on cultive du blé. À pleine vitesse, millions de brins d'herbe vus, inconnus toujours. La route dans les prés, des vaches broutent l'herbe par-delà les vitres.
Dans les prés, pirouette des foins poursuivis par l'araignée. Café laissé dans la tasse, le tracteur redémarre.
Herbe du fossé, à qui appartiennent-elles ? Fermier ? Cantonnier ?
Le troupeau ne veut pas rentrer. Tu cours, je cours, les enfants courent.
Donc, cette agricultrice a échangé avec vous. Elle
habitait dans le Limousin et on s'est rencontrés parce qu'en fait, elle était d'origine lyonnaise. Elle venait à Lyon. Elle avait envie de me rencontrer. Et on a décidé de faire ce travail ensemble.
Ouais. Et ça vous arrive fréquemment ou...
J'ai eu une période comme ça où j'aimais bien travailler avec d'autres gens, moins maintenant. Ouais. Mmh.
Il y a des correspondances qui peuvent
s'établir. Oui, c'est ça. Et puis, il y a des gens avec qui on se sent en phase,
oui.
Et d'autres pas forcément. Donc, voilà.
Ce sont des rencontres.
Le livre que je viens d'écrire, je n'ai jamais rencontré la personne avec laquelle j'ai écrit.
Jamais rencontré physiquement.
Physiquement.
Ouais.
Alors qu'on s'entend très bien pour écrire.
Ouais.
Et il y a des gens que je connais avec lesquels je ne peux pas écrire.
Oui, il n'y a pas de sensibilité partagée.
Oui.
Mais ce que vous dites, la personne autre, elle vous permet aussi de travailler, comment pourrais-je dire ?
Ça relance quelque chose. Ça nous apporte quelque chose qui permet de peut-être de partir dans une autre direction que celle à laquelle on penserait seul.
Voilà. Il y a une présence et une adresse, et en échange, un retour.
Oui.
Oui, c'est important.
On va peut-être écouter un petit morceau de musique.
Oui.
Hein, c'est de Dominique A.
Oui.
Contre un arbre, de l'album Vers les lueurs 2012.
Oublie la ville. Oublie la vitesse. Oublie l'agression verbale. Contre un arbre. Vois les nuages passer. Le ciel s'ouvrir. écoute la rivière se taire. Personne pour vous regarder. Contre un art, contre un art, les jours à cran. Les jours qui font écran, ils se détachent comme des peaux sèches d'inutiles carapaces. Contre un arbre, laissez-vous faire, laissez-vous vous porter. Laissez-vous faire, laissez-vous vous porter sous le ciel ouvert, au bord de la rivière, à la langue liée. Les feuilles seront vos alliés, les corps. Un mur impénétrable, vous resterez caché contre un arbre, contre un arbre. Seulement des taches de couleurs mouvantes au bord de la rivière qui passera sans mot dire sur vos petites affaires, sur ce que vous aurez à faire. Contre un arbre, contre un arbre, contre un arbre, contre un arbre,
Bon, je vous ai parlé de la concision du haïku, et maintenant je voudrais vous parler du lien du haïku avec la nature. En fait, dans un haïku, il y a un mot de saison, ça s'appelle kigo en japonais, et ce mot de saison, il est essentiel pour lier le poème avec la nature et avec l'environnement dans lequel se situe le poète. Dans les poèmes précédents, ceux que j'ai lus tout au début, il y avait bosquet dénudé, c'était l'hiver. Il y avait le pommier du Japon, c'est le début du printemps. L'arbre que j'abats, c'est l'été. Abeille, c'est l'été aussi. Ce lien avec la nature avait beaucoup interpellé le philosophe Paul-Louis Couchou, qui a rapporté le haïku en France. Et aujourd'hui, il est devenu essentiel pour nous parce que on a beaucoup dégradé notre environnement. Hein, on en parlait tout à l'heure. Bon, il y a le réchauffement climatique, la pollution de l'air, la raréfaction de l'eau, les incendies. Et je pense que la pratique du haïku peut nous aider à reformer un lien plus étroit avec l'environnement, avec la nature. Et grâce à sa concision et grâce à son lien avec la nature, le haïku peut vraiment nous aider à nous relier avec la nature. Je suis en train de préparer un petit projet là-dessus, un projet d'anthologie. Et dans ce projet, il y aura des éléments qui suivent. Être attentif, le haïku nous apprend à être attentif, à entrer en contact, à saisir, écrire les choses, à se tenir ensemble, à se déplacer, à être bouleversé, à garder la mémoire et quelquefois même à rendre grâce ou à évoluer. Voici quelques exemples de ces catégories que je vais lire avec Martine. Matin d'automne, le reflet des péniches bouge à peine. Bicot, France.
Début de printemps, ont-elles lu tous mes livres, ces deux araignées ? Françoise Lonqueti, France.
Cascatelle de elle, libellule s'envolant, légèle lent. Brigitte Briat, France.
Au sommet de la montagne, pour seul compagnon, le papillon blanc. Geneviève Filion, Canada.
Elle m'accompagne jusqu'au bout de la rue, l'odeur du pain. Dominique Boré, France.
Réfugié climatique. Au fond de sa poche, la terre de son pays. Francine Aubry, France.
Toujours dans l'oreille, la langue de mon grand-père, écalée des noix. Christiane Ourliac, France.
Au jour qui s'en va, je dis ma reconnaissance pour son bleu parfait. Michel Duflo, France.
Jour d'anniversaire, sa montre numérique chante bonne fête. Pierre Cadieux, Canada.
D'accord. J'ai appris des mots, enfin, ou... Est-ce que ce sont des néologismes ? Cascatelle ?
Ah ben, c'est la créativité poétique totale.
Voilà. Oui.
C'est les L. Hein, les...
Oui. Ouais. Et les je l'aile.
Lège l'aile, ouais. Légèlement.
D'accord.
Légèrement.
Donc,
mais là, c'est vraiment comment on écrit, on saisit avec l'écriture.
Oui. Hein,
tu vois le truc.
On peut s'autoriser à...
Ben, on est poète. Hein. Les oui. poètes, ils sont libres de tout faire avec le langage.
D'accord.
Bon, on va continuer encore avec quelques propriétés du haïku vraiment intéressantes. C'est... Le dépouillement du haïku, c'est un poème pauvre, le haïku. Et c'est un poème qui nous permet d'attraper, comme il est très petit, nous permet d'attraper des choses petites aussi. Alors, des objets que les gens ne voient pas, des petites fleurs que personne ne regarde. Ça, c'est pour le haïku. Mmh. Et puis, le haïku, ben, ça peut vous arriver n'importe quand. Hein. Faisant la queue à la caisse du Monoprix, un poème surgit. Ça, c'est possible avec le haïku.
Mais cet haïku que vous avez composé, les 5-7-5, vous les avez en tête ou vous cherchez un peu
de moins en moins en ce qui concerne Jean
ou vous cherchez
et
un
moi.
Peu
Non, en fait, moi, si je raconte un peu mon histoire, au début, je pense que ça n'a pas d'importance, le 5-7-5.
D'accord.
Parce que la poésie, ce n'est pas de l'arithmétique.
Oui.
Ce qui compte, c'est l'esprit du poème. Hein, mmh. Vraiment, quelque chose qui arrive à un moment et que tu arrives à saisir avec du texte. Mais aujourd'hui, je ne suis jamais très loin de la forme 5-7-5. Mmh. Faisant la queue, il y en a 4, à la caisse du Monoprix, 7... Un poème sur J5. Mmh. Donc, tu vois, il est quasiment classique,
oui,
celui-là.
Oui, il y a, comment dire, un entraînement, une régularité acquise.
Alors, ça vient tout seul, oui.
C'est un rythme aussi, quand même.
Voilà. Oui, c'est
oui,
ça.
Très un important, rythme. Le rythme.
Mmh. Oui, oui.
Tout à fait. Mmh.
Donc, je ne peux jamais te dire, c'est un 5-7-5, mais je l'ai dans la tête.
Oui,
pas, hein.
Pas très loin, parfois.
Il n'est pas
Et
loin.
Et puis, s'il y en a que 4 ou 6, peu importe.
Puis, des fois, ça peut être vraiment fait exprès, qu'on s'éloigne de la forme. Hein.
Oui, oui. Et une autre question, profane, certes, mais faisant la queue à la caisse du Monoprix, un poème surgit. Quand il surgit en toi, Jean, il se passe quoi ? Un moment de joie, un moment d'étonnement ? Est-ce que ça coupe des autres qui sont à côté de toi ?
Ben... J'en sais rien, mais bon, il se passe quelque chose dans ma tête, hein, ça se voit pas.
Mmh.
Je ne pense pas, en tout cas. Et voilà, j'ai peut-être été inspiré par la caissière du Monoprix. J'aime beaucoup les caissières, elles sont toujours charmantes. Puis elles font un boulot infernal, c'est pas toujours amusant. Voilà.
Hein, d'accord. Tu vois.
Mais parfois, ça surgit comme ça, sans que tu t'y attendes.
Voilà. Oui,
tout à fait.
C'est souvent les meilleurs, d'ailleurs.
Puis quand tu fais la queue, faut bien s'occuper. Hein.
Faut bien se raconter quelque chose.
Ouais.
Oui, oui.
Voilà.
Donc, il y a une activité.
En tout cas, ce qui est bien, c'est que ce haïku est une forme fixe. Et donc, cette forme, elle appartient à tout le monde.
Oui.
Donc, ça nous rassemble. Hein, c'est quelque chose.
Une présence au monde, hein, le haïku, avant tout. Hein.
Oui, et puis, c'est 5-7-5 avec le mot de saison et la césure. Ben, c'est quelque chose qui nous appartient. Mmh. Donc moi, je pouvais travailler avec les personnes avec qui j'ai travaillé grâce à ça.
D'accord. On va essayer d'en composer un pour Pauline, qui n'est pas sur la colline.
Ben, ça,
vas-y, continue.
Je vais essayer. Donc, poursuivez.
Donc la forme fixe, elle est très intéressante et c'est une forme qui a été utilisé par Bachot. Bachot, c'est quelqu'un dont il faut quand même parler quand on parle du haïku.
J'en parlerai tout à l'heure de Bachot.
On parlera tout à l'heure. Mmh. Très bien. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé à travers le Japon et il a rencontré des gens qui utilisaient cette forme un peu partout. Donc, à la mort de Bachot, dans les 20 années qui ont suivi sa mort, il a été célébré un peu partout au Japon parce qu'il avait été un peu dans tous les endroits du Japon, il y avait des poètes.
Il y a un parcours de Bachot, d'ailleurs, au Japon.
Oui, oui.
Et que Dendo a bien montré dans son dernier film sur le voyage de Bachot.
Ouais.
Ce film, on le trouve sur Internet.
Donc Dendo, rappelez-nous alors. Dendo, donc...
C'est un cinéaste.
D'accord, et qui parle de Bachot.
Richard Dendo, d'accord. Il a fait, il y a un an à peu près, un film qui s'appelle « Le voyage de Bachot ». Où Bachot est incarné par le plus haut gradé des moines d'une communauté de Tokyo, de Kyoto, pardon, qui a été absolument ravi de pouvoir faire ça. Mmh. Tellement ils adorent Bachot, les gens au Japon.
D'accord.
Ouais. Mmh. Oui, c'est un poète qui est toujours vivant, même 3 siècles après. C'est le Victor Hugo japonais, quoi, tu vois.
Mmh. Voilà. Oui, d'ailleurs, Quignard, dans une émission, un documentaire, il se rend au Japon et va à la cabane...
La cabane de Bachot. Oui, elle existe toujours, cabane de Bachot.
On va peut-être passer un peu de musique.
Oui.
Hein. Donc, un deuxième morceau de Renaud Garcia Fons, il s'appelle Funambule, dans l'album Légende de 1996.
Thank you.
Alors Martine, tu nous parles du haïbun maintenant ?
Oui, puisque on a évoqué écrire ensemble, je vais vous parler un petit peu du kukai, qui est un rassemblement de haïjin. Les haïjin, ce sont les poètes de haïku, qui se réunissent pour écrire ensemble, pour échanger et partager leurs écrits et discuter des règles comme on le faisait tout à l'heure justement. Les kukai sont généralement ouverts à tous ceux qui le souhaitent et ont lieu régulièrement au sein des diverses associations de haïku telles que l'AFH. Je crois qu'à l'AFH, il y a une réunion par semaine, non ?
Il y a un kukai à Lyon qui se réunit tous les 15 jours, jeudi.
D'accord. Et d'autre part, on peut aussi écrire des haïkus et des haïbun, je vais vous en parler, en voyageant et intégrer dans un récit de voyage les haïkus d'autres personnes qu'on rencontre. Le haïbun est moins connu que le haïku. Il s'agit d'une composition littéraire qui combine la prose brève et la poésie brève, qu'on appelle le haïku. Celle-ci se mêle en une brève narration poétique d'une expérience réelle ou imaginaire, et comme je le disais tout à l'heure, écrite par un seul poète ou par plusieurs. Le haïbun peut prendre souvent, mais pas exclusivement, la forme d'un récit de voyage. L'exemple le plus connu est l'œuvre du poète Matsuo Munefusa, dit Basho, qui vécut de 1644 à 1694. Basho avait suivi à Ueno les leçons d'un des maîtres du haïkai, c'est l'ancien nom du haïku, haïkai. Ce maître s'appelait Kitamura Kijin. Plus tard, alors qu'il vivait à Edo, le Tokyo d'aujourd'hui, plusieurs disciples rejoignirent son école. En 1681, il prit l'habit de moine et pratiqua la méditation sous la direction d'un maître de zen qui s'appelait Butcho. Basho s'est retiré dans ce qui s'appelait l'ermitage du bananier, et en japonais ça se dit Basho-an, d'où son nom. Cet ermitage se trouvait dans un faubourg d'Edo, et c'est à partir de ce moment-là que Basho fut connu sous le nom de Basho. Jusqu'à ce que l'incendie de sa maison début 1683... l'incite à faire un premier voyage dans la province voisine de Kai. Pendant qu'on reconstruisait le Basho-an, grâce à une souscription auprès de ses élèves qui étaient déjà nombreux. Basho prit alors goût au voyage et il utilisa le haïbun pour la rédaction de ses journaux et de ses carnets. Il n'hésita d'ailleurs pas à y insérer des haïkus de ses hôtes et de ses amis. Si aujourd'hui Basho est reconnu pour ses haïkus, il en a quand même écrit à peu près un millier, il était avant tout un prosateur. Les deux tiers au moins de son œuvre, qui fait à peine 300 pages, sont écrits en prose. Son texte le plus connu est celui dans lequel Basho consigne son dernier voyage vers les confins du Grand Nord japonais. Le titre de ce livre diffère selon les diverses traductions, je vous en donne quelques-unes. La sente des contrées secrètes, les trois chemins du fond, la sente étroite du bout du monde, sur le chemin étroit du nord profond, le chemin étroit vers les contrées du nord. Ce qui illustre bien la difficulté à traduire le japonais en français, ne serait-ce que pour un titre. Le haïbun a ultérieurement connu diverses écoles, et il est toujours pratiqué d'ailleurs. Il traite autant des événements et des émotions qui surviennent pendant un voyage que de la vie quotidienne. Il s'applique à la nature, au monde rural ou au monde urbain, à l'exil, à l'amour, à la mort, à la transcendance, au naturalisme, à l'expressionnisme, enfin à peu près à tout. On n'obtient pas un haïbun en juxtaposant artificiellement et mécaniquement prose et haïku. Ils forment un tout, une alliance qui entraîne le lecteur dans un univers étonnant, celui de la description et du non-dit, du minimalisme et de l'évocation. Le haïku, qui intervient dans un texte en prose, introduit ce qu'on pourrait nommer une réorientation du regard qui est soudain focalisé sur l'immédiateté, sur le concret, sur l'ici et maintenant. L'ici et maintenant, c'est vraiment la définition du haïku. Tout le texte est de préférence écrit au présent. Le haïku ne constitue pas un ajout dont on pourrait se passer ou une banale illustration du propos. Et il entretient avec le récit des liens subtils. Il doit surgir le plus naturellement possible dans le rythme de la prose et ravir le lecteur. Le haïbun révèle un rapport d'analogie entre la prose et la poésie, continuum subtil et jeu de résonance imaginaire et sémantique entre l'un et l'autre, dialogue entre prose et poème. Les images, les idées, les rêves, les sensations et les sentiments s'agrègent par rapport de ressemblance qui existe entre les choses. Il crée un assemblage de structures semblables sur un même thème. Le haïbun exige un style clair et rythmé, à la fois évocateur et précis, que seule la présence du haïku ne saurait créer. On y retrouve la dialectique, immutabilité, impermanence. J'ai pensé vous lire un extrait de Bachot, mais ça n'aurait été qu'un extrait. J'ai donc décidé de vous lire un petit haïbun que j'ai écrit, comme ça vous l'aurez en entier. Il est dans le recueil Autour de Proust qui vient de sortir aux éditions du Tanka francophone. Ça s'appelle Une couleur bleue. Ça commence avec un incipit de Proust, comme tous les textes de ce recueil. Le ciel tout entier était fait de ce beau bleu radieux et un peu pâle, comme le promeneur couché dans un champ le voit parfois au-dessus de sa tête. Mais tellement uni, tellement profond, qu'on sent que le bleu dont il est fait a été employé sans aucun alliage, et avec une si inépuisable richesse qu'on pourrait approfondir de plus en plus sa substance, sans rencontrer un atome d'autre chose que de ce même bleu. Ça, c'était la phrase de Proust. Ça commence quand, ce bleu dans mes veines? Avec les piqûres d'eau de mer qu'on m'injecte pour me faire vivre, bébé? La légende raconte que je n'aurais pas survécu sans elle. La mer dans la peau, à défaut d'être dans le cœur de ma mère. Avec la layette bleue qui attendait, à tort, un garçon susceptible d'être la gloire de mon père, je portais bébé ce qu'on nomme une couleur froide, la couleur de l'erreur. Dans le creux des flaques, nuages amoncelés, un corbeau croasse. Ça commence quand ce bleu, ce désir de bleu? Avec le regard du grand-père maternel, tout aussi infini que l'horizon, un regard qui m'accueille, le premier sans doute, avant celui de la mère ou du père, un regard qui dit « Je t'aime et je vais te le montrer. Je vais tout faire pour ton bonheur, tout inventer. Des meubles de poupées en bois, des promenades en carriole avec ton âne, des échasses pour que tes jambes ressemblent à ma jambe de bois, te faire conduire la vieille traction avant sur mes genoux, te fabriquer des pipes avec des glands, t'emmener ramasser les œufs de poule. Le bleu de mes yeux va te dire que je ne triche pas. Pas avec toi, ma petite fille. Une onde bleue est passée entre lui et moi. Impossible de choisir un homme qui n'ait pas ses yeux. Impossible d'y déroger. Ma vie, une série d'hommes bleus. Non, pas ceux du Sahara. Seulement ceux qui peuvent m'aimer, ou plutôt, ceux que je peux aimer. il existe un bleu qui me parle. Un bleu que je pourrais peut-être un jour transcrire sur ma toile, en explorant toutes les palettes de pastel, de gouache, d'argile. Un bleu dont je pourrais peut-être un jour reproduire la transparence et la profondeur. Mer étale. Quelques voiliers au loin. La plage est déserte.
Merci Martine. Donc dans ce recueil, combien de personnes ont participé ?
Je crois qu'on est une trentaine.
Et donc à partir d'une phrase de Proust ?
Oui. Un inkip, ce que j'ai lu au début du texte.
Et chaque phrase, chacun la choisissait.
Non, elle était imposée.
D'accord. Et comment vous êtes regroupés, rassemblés ?
C'est l'éditeur qui lance un appel à texte sur Facebook et les gens lui envoient des textes. Il les choisit. D'accord. Il y a un jury qui les choisit.
Émouvante.
C'est un très beau texte, magnifique.
Merci. Merci.
Émouvante et très personnelle.
On continue avec le haïku. Donc, vous avez entendu parler, grâce à Martine, du haïboun. Et ce qui est intéressant, malgré tout, c'est que le haïku vient d'ailleurs. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de prendre du recul dans une époque où l'identité nationale devient presque une maladie. On a vraiment besoin d'avoir du recul et de traverser un peu les frontières. Et le haïku nous permet de faire ça, parce qu'il vient d'ailleurs. Un poète qui vivait à Bourg-en-Bresse, qui s'appelle André Durand, et que peut-être les gens de Bourg-en-Bresse ne connaissent pas très bien, disait que le haïku, c'est le seul poème qu'on peut traduire, parce qu'il exprime une expérience avec un langage simple. Voilà, le haïku fait voyager aussi.
C'est quand même pas simple de traduire un haïku. Hein.
C'est quand même, assez simple, assez simple.
Mais on se rendait compte tout à l'heure de la difficulté même pour le titre sur la.
Oui.
Oui, mais le titre c'est très spécial.
Ah bon.
Il y a un mot qui est oku en japonais, et ce mot ça peut dire vouloir dire le nord du Japon, le fond. Le fond, on ne sait pas très bien ce que c'est que ce fond, mais ce mot est très compliqué, il n'existe qu'en japonais. Donc c'est ça qui est difficile à traduire. D'accord. Dans ce titre. Sinon, beaucoup de haïkus n'ont pas forcément des mots aussi compliqués à traduire.
Et puis on se rend compte quand même que la langue japonaise est plus adaptée au 5-7-5 que la nôtre aussi. Hein. C'est pour ça qu'on a tendance à déroger parfois.
Oui, peut-être. Il y a aussi eu des études sur le fait qu'on serait plus proche du 3-5-3, par exemple, en français, que du 5-7-5. Quelqu'un qui s'appelle Jacques Roubaud, que tout le monde connaît bien comme poète, a inventé le trident. Il était au Japon et il a inventé une forme qui s'appelle le trident, qui est 3-5-3. Il vient d'en publier d'ailleurs un gros paquet. Hein. Je crois que c'est 2000 tridents. Je ne me rappelle plus l'éditeur, mais on peut le retrouver facilement sur Internet.
Donc ce André Durand de Bourg-en-Bresse, j'insiste.
Bourg-en-Bresse.
De Bourg-en-Bresse.
Bourg-en-Bresse, excusez-moi. Les
autochtones sont très attachés à, comment dirais-je, à cette formulation.
Comment appelle-t-on les habitants de Bourg-en-Bresse?
Les Burgiens.
Burgiens.
Par contre, il y a une grande ignorance, même dans les médias nationaux, c'est qu'une personne de Bourg-en-Bresse, on la situe, on pense qu'elle est bressane.
Pas le cas.
Ah oui.
Si, elle est bressane quand même.
Elle est de la Bresse, mais la Bresse s'étend.
Oui, c'est grand la Bresse.
Ah, ouais. D'accord. Ouais. Je plaisante, Jean.
Non, mais je m'excuse auprès des Burgiens. Et je vous propose un troisième morceau de musique de Agnès Obel, Can Be, de l'album Myopia de 2012.
I can't be.
Japon continue avec l'histoire du haïku en France, parce que ce haïku est quand même arrivé au 19e siècle. 19e, 1850, c'est une période qu'on appelle en France le japonisme. À ce moment-là, il est arrivé beaucoup du Japon, beaucoup d'estampes, de meubles, etc. Notamment importés par des Hollandais qui avaient un comptoir au Japon. Et ce japonisme a sévi dans toute la peinture, notamment chez les impressionnistes. Hein. Quelqu'un comme Monet a peint, je ne sais pas combien le nombre de façades de la cathédrale de Rouen pour avoir la lumière sur cette façade. C'est des choses qui venaient directement de l'idée des Japonais. Qui encore ? Pierre Loti a écrit un livre qui s'appelle Madame Chrysanthème. C'est l'histoire de sa rencontre avec une jeune japonaise. C'est quelqu'un qui était dans la marine. Et il se trouve que, à la sortie de l'école normale supérieure, un certain Paul-Louis Couchou, qui avait étudié la philosophie, il a bénéficié d'une bourse pour aller se promener en dehors de la France. Et il a passé quelque temps au Japon, 6 mois à peu près. Il a rencontré un agrégé de philosophie qui connaissait le japonais, qui s'appelait Claude Mestre. À l'époque, en France, il devait y avoir peut-être une dizaine de gens qui connaissaient le japonais. Et à son retour, Paul-Louis Couchou a écrit un essai qui porte le titre « Le Haikai, les épigrammes lyriques du Japon », dans lequel il loue essentiellement le lien que les Japonais entretiennent avec la nature. Je vous lis juste la première phrase de ce texte, ou les premières phrases. « Il n'y a pas de peuple qui s'émerveille de la nature autant que le peuple japonais. Malgré un climat assez froid, les Japonais ne peuvent se résoudre à fermer leur maison. Ils enlèvent en toute saison les fines cloisons de bois et de papier afin de jouir du ciel, du vol des oiseaux et du calme jardin qui symbolise le Japon tout entier. Dans leur chambre même, ils emportent un petit arbre qui résume la forêt. Les villes sont des parcs, les temples des jardins, peuplés de fleurs et de bêtes. » Donc, Couchou a rapporté le haïku à Paris, un peu comme un petit arbre.
Un bonsaï, ça s'appelle.
Ça s'appelle un bonsaï. En français, un petit arbre, c'est très joli. Et je vais vous... Il a fait un voyage en péniche l'année suivante avec deux copains pour écrire des haïkus. Ils ont passé un mois sur une péniche. Et donc, voici quelques poèmes que nous allons vous lire avec Martine. D'accord. Alors, le recueil s'appelait « Au fil de l'eau ». Il a été tiré à 30 exemplaires. Et il a été réédité il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années.
D'accord.
Voilà. Alors, ça commence comme ça. « Le convoi glisse déjà. Adieu Notre-Dame. Oh, la gare de Lyon.
» Dans la Dala... Pardon. « Dans la Dahabie, les faiseurs de Haikai éventent leurs jambes nues. »
La nuit est-elle finie ? Je soulève la bâche. Éblouissement.
Sur le bord du bateau, je me hasarde à quatre pattes. Que me veut cette libellule ?
Dans le soir brûlant, nous cherchons une auberge. Oh, ces capucines !
Les bateliers roupillent dans l'herbe. Les deux chevaux s'en vont devisant. Service accéléré.
Dans un monde de rêve, sur un bateau de passage, rencontre d'un instant. C'est un petit recueil où les haïkus ressemblaient beaucoup à des haïkus japonais. Hein. Ils avaient pris vraiment pour modèle, notamment « Dans le soir brûlant, nous cherchons une auberge aux ces capucines ». C'est un poème de Busson, par exemple, très proche.
Donc, ils étaient les pionniers, donc.
C'est les pionniers, tout à fait. Et c'est le premier recueil de haïkus en français. Mmh. Et ce qui est presque étonnant, c'est qu'ils se soient lancés carrément à écrire une forme qui était quand même une forme étrangère, qu'ils connaissaient très mal. Quoi.
Voilà. Ils sont partis à l'aventure sur cette péniche.
Et ça, c'est merveilleux. Et moi, je pense qu'ils sont partis sur la péniche pour s'éloigner un peu de la France.
Oui.
Tu vois, ils étaient un peu isolés, donc ils pouvaient se représenter mieux le Japon.
Oui, oui. Et chez Okusai, on voit beaucoup de petits bateaux. Enfin,
ouais.
Hein, oui, oui. Ouais. Avec les montagnes, enfin, le bateau étant entre...
Sur les estampes.
Oui, ouais, ouais, entre ouais. ciel et eau.
Et oui.
C'est ça.
Dans le bleu.
Dans le bleu.
Donc ça, c'est la première étape du haïku en France. Et ensuite, le véritable poète de cette équipe s'appelle Julien Vaucance.
Ah oui, qui est important.
Hein, c'est un Ardéchois. Ouais. Et lui... Il a tout de suite beaucoup accroché avec le haïku et il a écrit des haïkus quand il était sur le front pendant la guerre de 14 dans les tranchées. Il a publié ça dans une revue qui s'appelait La Grande Revue à l'époque et le titre était « Sans vision de guerre ». Ça a été publié en 1916. On peut lire aujourd'hui ces haïkus dans une anthologie qui a été faite par Dominique Chipot aux éditions Bruno Doucet et qui s'appelle « En pleine figure, haïkus de la guerre de 14-18 ».
Ça reprend « Sans vue du mont Fuji ».
Oui, c'est ça.
Qui a été fait en
c'est
estampe.
Ça, tout à fait, ouais. Voilà. D'ailleurs, Vaucance voulait mettre « Sans vue de guerre » et le directeur de la Grande Revue a trouvé que « Vision », c'était mieux parce que bon, on va lire les haïkus, vous allez voir ce que ça peut donner. Hein.
Ils sont assez donc, émouvants et
ils sont
et
très
profonds,
forts. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Mm-hmm. Donc, au ras du sol depuis 15 jours, mon œil en connaît les moindres bosses, les moindres herbes.
Ma tête à peine rentrée, un moustique siffle et soudain, la crête de terre s'éboule.
Les cadavres entre les tranchées, depuis 3 mois noircissant, ont attrapé la pelade.
Voici venir la nuit, si douce naguère, trouée de brusques lueurs. Les ombres de la mort nous étreignent.
Une mitrailleuse ensanglantée, avant de mourir, a déployé son éventail de cadavres.
La mort a creusé sans doute ces gigantesques sillons, dont les graines sont des hommes.
En plein sur les travailleurs, la lumière du projecteur les fait se jeter à terre.
Sur son chariot mal graissé, l'obus très haut, pas pressé, au-dessus de nous a passé.
Les rafales de nos canons, d'une ville à l'horizon, allument la vision brève.
Tu l'as lu, celui de la mitrailleuse, déjà.
Ah oui. À leur table frugale, un saucisson noir s'est invité. Il a défoncé 3 poitrines.
Par petits paquets, en éventail autour de lui, sa chair a jailli.
Ils ont des yeux luisants, de santé, de jeunesse, d'espoir. Ils ont des yeux en verre. Bon. C'est pas gay, hein.
Mais
c'est la guerre de 14.
Oui.
Mais on la sent bien.
Oui. Hein.
Sa chair a jailli,
c'est. Oui, c'est sans doute ce qui s'est passé. Hein.
Voilà. Oui, oui, là, il a une vision, c'est le cas de le dire, très précise, et on voit bien la scène, effectivement. Et ces haïkus-là, français, donc, ont été aussi traduits par les Allemands.
Oui, c'est ça.
C'est pendant la guerre,
oui,
même.
Oui, tout à fait. Et les Allemands l'ont beaucoup apprécié. J'ai des notes critiques là-dessus. Mais peut-être on va s'arrêter maintenant, parce que on arrive à la fin de la...
de la séance.
De notre première séance.
Oui, donc nous poursuivrons une fois prochaine avec Martine Lenormand et Jean Antonini. Merci beaucoup de votre écoute.